19h sur France Inter. Hélène Philippe, bonsoir.
Bonsoir à tous. Action festive, action surprise, la grève se poursuit contre la réforme des retraites dans les transports. Les grévistes créent du lien avec les usagers à Orléans, envahissent brièvement la gare de Lyon à Paris. Et qu'en est-il dans les raffineries? 2 sur 8 seulement votent des blocages aujourd'hui. Les turbulences étaient trop fortes 10 mois après l'interdiction de vol du 737 MAX. Le patron de Boeing est débarqué. Dans ce journal encore, la mort du puissant chef d'état-major de l'armée algérienne, Gaïd Salah. Le verdict dans le procès de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Justice bafouée, dénonce Reporters sans frontières, qui épargne les proches du prince héritier. Et puis en France, les urgences à Noël débordent. Inquiétude du chef de service de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Et la Corse évalue les dégâts après la tempête Fabien. À 19h20, le téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce soir, la génération boomer contre la vôtre. Hélène, celle des millennials. La réforme des retraites a réveillé cette vieille fracture générationnelle. Y a-t-il vraiment une génération qui a tout eu, du plein emploi, la révolution sexuelle, la retraite dorée, les voitures polluantes, quand l'autre doit réparer les pots cassés, payer les retraites, réparer l'environnement? Ok, boomer contre ok, fiston, range ton portable. Ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Quand les banquets remplacent les piquets, la grève continue cette semaine dans les transports contre la réforme des retraites. Et à défaut de trêve, les actions prennent des allures un peu plus festives un peu partout aujourd'hui pour réunir les grévistes, interpeller les usagers. Les militants CGT ont sorti les tables pliantes sur le parvis de la gare des Aubrais à Orléans. Marie Proté y était.
Vin chaud dans une main, drapeau CGT dans l'autre, les grévistes allient l'utile à l'agréable. Assis autour d'une douzaine de tables dehors, ils attendent de déguster le repas de Noël concocté par Alain, cheminot retraité.
Aujourd'hui, ça sera rouge avec saucisse, avec du riz, du fromage, une part de bûche de Noël. C'est pas mal, pour 5 euros.
5 euros minimum, chacun donne ce qu'il veut. Le surplus sera distribué entre les grévistes les plus défavorisés, assure Marion Gazot, secrétaire de la CGT Cheminot d'Orléans.
Ça permet d'adoucir les grosses difficultés de certains. Ceux qui ont des enfants bas âge, les mamans isolées, il y en a qui sont couples de cheminots, donc 15 jours de grève, autant dire que ça fait un salaire de moins. On sait très bien que le mois de janvier, le mois de février, ça va être très compliqué. C'est pour ça que des moments conviviaux comme ça font du bien à tout le monde.
Ce qui leur fait du bien aussi, c'est de décompresser, notamment en dansant sur des chansons de Noël, spéciale grève SNCF.
Admirer les boules du sapin. C'est sympa, non? S'il y en a qui arrivent à faire quelques chansons là-dessus, c'est que ils pensent que notre mouvement il est vivant et ça donne beaucoup de crédibilité. Ouais.
Et ça aide aussi à mobiliser d'autres professions. Une poignée d'enseignants et d'infirmiers se joignent à la fête comme Patricia.
On est toujours en train d'en remettre plein d'eau en disant qu'ils veulent garder leurs privilèges. Et c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui ils sont là pour tout le monde, que ce soit le privé ou le public. Et ça, il faudrait bien que les gens le comprennent.
Pour montrer son soutien indéfectible au mouvement de contestation, Patricia promet d'adresser un chèque aux cheminots d'Orléans.
Reportage France Bleu Marine. Proté, banquet festif d'un côté, action surprise de l'autre. À Paris, quelques moments de tension aujourd'hui. Des manifestants ont brièvement bloqué la ligne 1 du métro en descendant sur les quais Gare de Lyon face à quelques journalistes. Un peu plus tard, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'est dite choquée par les images.
Ce que j'ai vu comme image m'a choquée parce que je pense qu'on fait prendre des risques aux usagers. C'est-à-dire lancer des fumigènes dans un endroit fermé peut entraîner des mouvements de foule, des mouvements de panique. Et moi, je suis toujours inquiète quand on met des usagers en situation potentielle de danger. Et donc, à ce titre-là, évidemment, j'ai été assez choquée des images que j'ai vues ce matin.
Agnès Buzyn et Elisabeth Borne sur Twitter, la ministre de la Transition écologique, estiment que le libre exercice du droit de grève n'est pas un droit à envahir ou à intimider les voyageurs. Le taux de grévistes à la SNCF est tombé à 9,2% aujourd'hui, moins de la moitié des conducteurs, mais le mouvement se poursuit bel et bien. 2 TGV sur 5 demain, 1 intercité sur 5. Ne comptez pas sur les Transiliens demain soir, la circulation s'arrêtera à 18h et ne reprendra que mercredi après-midi, voire jeudi sur certains tronçons. Si vous devez prendre un TGV ou un Ouigo pour Noël et jusqu'au week-end prochain, vous saurez ce qu'il en est demain. Il faudra attendre vendredi pour les TER et les Transiliens et pour ce qui est des métros des lignes du métro parisien. 6 lignes resteront fermées demain. Et dans les raffineries, il y avait plusieurs assemblées générales cet après-midi. La branche chimie de la CGT est mobilisée. Elle revendique même l'arrêt total des installations de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône, près de Martigues. On fait le point avec vous, Cyril Ardo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez fait le tour de toutes les assemblées générales. Ça donne quoi finalement?
Laurent.
Eh bien, la mise à l'arrêt n'a été votée par les syndicats que dans une seule nouvelle raffinerie, c'est celle de Grandpuy en Seine-et-Marne, près de Paris. C'est la plus petite de France qui produit moins de 10% du total national. Alors, la direction de ce site, qui appartient à Total, confirme cette décision des syndicats, mais explique aussi que c'est elle, la direction, qui a la main sur le robinet. En bref, tant qu'elle a les moyens de produire, elle continuera, même si elle reconnaît que la raffinerie tourne un peu au ralenti depuis le début de la grève, car les expéditions sont perturbées. Dans les autres raffineries, pas de nouveaux blocages votés donc. Il reste quand même le cas de l'Avera dans les Bouches-du-Rhône. Les syndicats affirment qu'elle est en train d'être arrêtée. Ça prend tout de même entre une et deux semaines. La direction se refuse à tout commentaire pour, je cite, ne pas déstabiliser le marché. Mais le ministère de la Transition écologique confirme l'arrêt donc de cette raffinerie. Reste la question de la pénurie. Pour le moment, il n'y a rien à craindre, dit le gouvernement et les professionnels du secteur. Si des carburants peuvent manquer dans environ 15% des stations-service des Bouches-du-Rhône, les quelques 200 dépôts pétroliers sont loin d'être vides. Et quand bien même ils le seraient, il resterait malgré tout la réserve stratégique, l'équivalent de 3 à 5 mois de consommation.
Merci pour ces précisions, Cyril Ardo. Côté négociation sur la réforme des retraites, le Premier ministre a donné rendez-vous à tout le monde début janvier. On attend aujourd'hui un calendrier précis, des négociations et des concessions dont on ne mesure pas encore totalement les contours. Mais d'après la députée LREM Olivia Grégoire, ce seraient des concessions qui se compteraient en milliards d'euros. C'était ce matin sur France Inter, à réécouter en longueur sur franceinter.fr.
La crise du 737 MAX coûte donc son poste au patron de Boeing.
C'est une crise sans précédent pour l'avionneur américain. Le 737 MAX, c'est son avion vedette, impliqué dans deux crashs coup sur coup, et il est interdit de vol depuis 10 mois maintenant. Les différentes enquêtes ont mis en lumière des dysfonctionnements nombreux, notamment sur le processus de certification. Turbulence trop forte pour le patron. Correspondance à New York, Loïc Laurie.
Dennis Muhlenberg, sans surprise, n'aura pas passé les fêtes de fin d'année. En octobre dernier, le patron de l'avionneur avait déjà perdu son titre de président du conseil d'administration, conséquence de la plus grave crise de l'histoire de Boeing. 346 morts en l'espace de quelques mois, deux catastrophes aériennes et à chaque fois un 737 MAX impliqué. Résultat, depuis mars, l'appareil est cloué au sol, sans date de remise en service, la production de ce qui devait être l'avion star du constructeur. Elle s'arrêtera le mois prochain. Mais au-delà de tout cela, Dennis Muhlenberg paye aussi une gestion de crise désastreuse, notamment un silence malvenu face au drame des familles et des révélations explosives sur les dysfonctionnements du processus de certification ou sur la proximité troublante de Boeing avec le régulateur américain. Pour le géant de l'aéronautique, l'éviction de Muhlenberg ne mettra pas fin à la crise. New York, Loïc Laurie, France Inter.
En Algérie, une information fait la une des sites ce soir. C'est la mort du chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah, victime d'une crise cardiaque à 79 ans. C'était le visage du haut commandement militaire, le pilier du régime, derrière Bouteflika, déchu en avril dernier, et même derrière Abdelmajid Tebboune, le nouveau président du pays. Alors que les protestations, les manifestations contre le système ne faiblissent pas, son décès pourrait être une opportunité pour le président Tebboune de s'affronter de la tutelle de l'armée. C'est ce qu'explique Naoufel Brahimi El-Mili, docteur en sciences politiques.
Sa disparition change la donne dans la mesure où sa personnalité a focalisé toutes les colères possibles. La rue demandait notamment le départ de Gaïd Salah, ce que le président investi ne pouvait pas faire. Maintenant, ce dossier est clos. Sur le plan symbolique, Gaïd Salah, pendant les 10 derniers mois, tenait des discours dans les casernes. C'est Gaïd Salah qui a fixé la date des élections du 12 décembre. Donc, sur le plan de la symbolique, il occupait seul le terrain. Et c'était la seule voix de l'armée. Maintenant, tout le monde est lucide. L'armée reste aux commandes. Ce qui change, c'est la méthode, mais pas le fond. On va voir quelles sont les mesures que Tebboune va prendre. La demande des gens du Hirak, c'est la libération des détenus d'opinion. Cette demande n'est pas encore exaucée. Donc, il est attendu sur les actes.
Le politologue Naoufel Brahimi El-Mili au téléphone de Louise Baudet. C'est un meurtre qui avait horrifié le monde entier. Il y a un an, le journaliste saoudien en exil, Jamal Khashoggi, était assassiné dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul, en Turquie. Les restes de son corps n'ont jamais été retrouvés. Les services secrets du prince héritier d'Arabie Saoudite accusé, le procès qui vient de s'achever, a-t-il apporté la vérité sur ce qui s'est passé? blindés. 5 Saoudiens ont été condamnés à mort, mais les principaux suspects proches du prince Ben Salman ont été disculpés. La justice a été bafouée, tranche le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire.
C'était censé élucider l'affaire Khashoggi, et cette procédure n'a respecté aucun des standards internationaux de la justice. Bref, c'était porte fermée et des décisions qui ont toutes décisions discrétionnaires avec des acquittements pour certains, ceux qui étaient de rang le plus élevé, et des condamnations à la peine de mort dans cette affaire. Ça ressemble à une chose, c'est simplement la volonté de dissimuler à jamais, si ces peines devaient être exécutées, la voix de ceux qui pourraient témoigner sur ce qui s'est passé, parce que ils en ont vraisemblablement été les acteurs.
Ça permet à MBS, Mohamed El Salman, de s'en sortir honorablement, entre guillemets.
Mohamed Ben Salman, le prince héritier, il est en train d'essayer de reconstruire son image. Il a dit qu'il n'y était pour strictement rien. C'est ce que veut laisser croire aussi ce jugement. Donc il faut encore qu'on se batte pour obtenir la pleine vérité, pour qu'une justice digne de ce nom soit rendue et pour que les conclusions politiques soient tirées, s'agissant de Khashoggi et s'agissant de tous ceux qui sont arbitrairement détenus en Arabie Saoudite.
Christophe Deloire au téléphone de Nathanaël Charbonnier. À l'étranger encore, l'Australie. L'urgence, c'est d'éteindre les feux qui ravagent divers endroits du pays depuis des semaines. Mais il est aussi question de transition énergétique. L'Australie compte 3 fois moins d'habitants que la France et émet pourtant nettement plus de gaz à effet de serre. Elle tire son énergie du charbon essentiellement. Mais le Premier ministre, climato-sceptique, ne lèvera pas le petit doigt pour tourner le dos à une industrie qui emploie, dit-il, des milliers d'Australiens.
Il est 19h11 sur France Inter, privé de Noël par Israël.
C'est la crainte des chrétiens de Gaza ces derniers jours qui aimeraient se rendre à Bethléem ou Nazareth pour les fêtes. L'administration militaire israélienne a décidé de n'accorder des permis de sortie qu'au compte-gouttes, officiellement pour des raisons de sécurité. Mais la question est aussi politique. Correspondance signée Frédéric Mettezo.
Hier, comme tous les dimanches, le père Gabriel a célébré la messe dans la seule église catholique de Gaza, dans l'édifice aux murs blancs et jaunes, avec inscription en arabe et image sainte colorée. Il a formulé une prière inhabituelle.
Je désirais que l'église catholique à Gaza soit vide les nuits de Noël, parce que ça veut dire que les chrétiens d'ici ont obtenu le permis pour aller à Bethléem.
Pour l'instant, Israël a délivré un peu moins de 200 permis de sortie pour le père Ibrahim Chomali, chancelier du patriarcat latin à Jérusalem. C'est à cause de la campagne électorale israélienne.
C'est question purement électorale politique. Les fanatiques, ils veulent faire plus fanatiques pour dire à leurs électeurs que moi je suis fort contre les Palestiniens.
Et pour le curé de Gaza, ce sont les familles qui vont en souffrir.
Les familles palestiniennes, elles sont présentes dans tous les territoires. Gaza, Cisjordanie, Israël même. On parle de frères, de sœurs, de fils. Alors Noël, c'est une occasion où tout le monde espère de voir leur famille.
Gaza, 2 millions d'habitants, ne compte qu'un millier de chrétiens. L'année dernière, seuls 700 avaient pu se rendre en Israël et en Cisjordanie. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Pendant les fêtes en France, l'hôpital reste ouvert évidemment. Pendant les grèves, l'hôpital soigne toujours forcément. Mais il déborde encore. C'est l'alerte du chef de service des urgences du CHU du Kremlin-Bicêtre, Maurice Raphaël, qui est au micro de Daniel Messager.
Cette semaine, c'est une semaine traditionnellement compliquée. On est en phase pré-épidémique de la grippe. Hein. On voit que la grippe commence à monter assez rapidement en Ile-de-France et en Occitanie. Donc ça peut basculer très rapidement. Actuellement, on a 4 patients maintenant chez qui on détecte des grippes chaque jour. Mais vous savez, l'épidémie, ça galope. Hein. Des brancards qui se touchent, donc des épidémies qui se propagent. Enfin, vous imaginez, c'est des situations qui sont aujourd'hui indignes d'un hôpital moderne. Il y a un risque d'événements graves, c'est absolument évident. Hein. On n'a pas le choix. On ne ferme pas les urgences pour faire du tri en permanence parce que vous avez des gens qui stagnent pendant des heures. Quand vous avez conclu un patient qu'il est encore là 24 heures après, bah, c'est évident qu'il faut qu'il soit revu régulièrement. Et ça, il y a des moments où on ne peut pas le faire parce qu'on n'est pas assez, parce qu'il faut gérer le flux qui est continu. Cette nuit, il y avait plus de 50 patients dans les urgences avec 2 médecins, 2 internes. Il y a eu 35 patients entre minuit et 8 heures. Vous rendez bien compte que on peut pas à la fois voir les 35 patients et revoir régulièrement tous les gens qui sont là. Donc il y a une situation de danger.
L'inquiétude du docteur Maurice Raphaël, chef du service des urgences au CHU du Kremlin-Bicêtre à Paris. Après l'évacuation d'urgence, l'évaluation des dégâts, la région d'Ajaccio a été durement touchée par le passage de la tempête Fabien. Des bâtiments éventrés ou à moitié emportés, des outils de travail réduits à néant. Triste image sur les rives du Prunelli, reportage signé Maxime Beckmann. meurt.
Un 4x4 suspendu sur un poirier, des bâtiments dont il ne reste presque plus rien, et partout des enchevêtrements de troncs d'arbres, carcasses de voitures, bateaux de plaisance ou autres caravanes.
L'apocalypse, des bateaux qui viennent de beaucoup plus haut, qui ne sont pas de chez nous, dans les arbres.
François Bartoli est le patron de Corse Aventure, leader dans les activités de pleine nature. En quelques minutes, il a tout perdu.
Bah, toutes nos infrastructures, nos chambres froides, enfin tout ça, c'est mort. Ne serait-ce que déblayer, c'est un travail de plusieurs mois.
Des particuliers aussi ont perdu gros. Sur l'autre rive du fleuve, une dizaine d'habitations ont été envahies par la montée des eaux.
Ça allait très vite parce que l'eau montait à une vitesse, quoi, en espace d'une heure, il y avait un mètre d'eau.
Yann vit ici depuis 10 ans avec sa femme et ses enfants en bas âge. Il nous dit avoir vécu un moment des plus difficiles.
Après, il y avait une force énorme. Moi, j'ai failli me faire emporter. Bon, c'était un peu inconscient, mais je suis quand même rentré dedans une fois que les enfants et ma femme étaient à l'abri pour sauver tout ce que je pouvais sauver avant que voilà, ça soit irréversible.
Comme d'autres familles, hier soir, tous les 5 ont dû compter sur leurs proches pour être hébergés. Situation particulière pour une veille de Noël.
L'aéroport d'Ajaccio reste fermé puis 14 000 foyers privés d'électricité. Cette information judiciaire pour homicide involontaire à Toulouse après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn le 18 novembre dernier. Le poids excessif d'un camion de plus de 50 tonnes semble être à l'origine de l'accident qui a fait 2 morts et 1 blessé.
Une enquête a été ouverte après un déplacement chaotique de supporters de foot nîmois.
C'était samedi après-midi, des supporters de Nîmes veulent se rendre en car à Marseille pour le match qui oppose leur équipe à l'OM, sauf qu'ils sont refoulés par la police au péage de Lançon de Provence. Ils sont plus de 500, alors qu'un arrêté préfectoral limitait leur présence à 200. Des supporters postent ensuite des vidéos montrant des heurts assez violents avec la police à leur retour à Nîmes. Sur cette affaire, 2 versions s'opposent, Ludovic Labastrou.
Un seul des 8 bus raccompagnés à Nîmes est incriminé en faisant à plusieurs reprises mine de quitter la file, encadré par des policiers à son bord, selon eux, des supporters particulièrement excités, pour certains ayant consommé de l'alcool. Bus qui s'arrête sur l'autoroute, premier usage de gaz lacrymogène pour empêcher que les passagers ne débarquent. Pas de traces dans la procédure de policiers gazant le chauffeur et jetant dans le bus une grenade de désencerclement, une version que les Nîmois maintiennent. Nîmois qui envisagent de déposer une plainte collective. De retour aux Costières, l'excitation est à son comble. De ce seul même bus sont jetés divers projectiles ainsi que des engins pyrotechniques. Nouvel usage de gaz lacrymogène pour disperser les fauteurs de troubles, disent les policiers, et une interpellation. Un homme de 30 ans mis en examen est placé sous contrôle judiciaire pour violence aggravée avec arme. Une bouteille de vodka qui a rebondi sur le capot d'une voiture et blessé à l'épaule un policier. Inconnu des services, le supporter nîmois répondra en outre de rébellion sous empire alcoolique et stupéfiant.
Explication France Bleu de Ludovic Labastrou. Information de sport, Lucas Pouille ne sera pas sur les courts de l'Open d'Australie en janvier prochain. Le Français au 22e rang mondial n'avait déjà pas participé à la Coupe Davis à cause d'une blessure au coude droit. Et puis s'il vous manque une idée ou s'il vous reste un peu de budget pour garnir le sapin, voici une bonne idée soufflée par Mathieu Culeron. L'intégrale d'Ennio Morricone vient de sortir dans un coffret, le Maestro italien, 18 CD du grand classique et quelques pépites.
Ennio Morricone n'aime pas trop qu'on résume sa carrière à ses compositions pour Sergio Leone. Pourtant, dans ce coffret, 5 CD sur 18 sont consacrés à cette incroyable collaboration. Il faut dire que désormais, ses musiques font partie du patrimoine, guimbardes de mythiques, sifflements légendaires. Morricone mélange avec une patte reconnaissable entre 1000 variétés symphoniques et ritournelles grandiloquentes. Parmi les chefs-d'œuvre incontestables, le thème de Déborah dans « Il était une fois en Amérique ». Un disque entier consacré au cinéma engagé des années 70, notamment Sacco et Vanzetti de Giuliano Montaldo, et La classe ouvrière va au paradis d'Elio Pietri. Give to me your tired and your poor. Bertolucci, Pasolini, Argento ou encore Bellocchio, Ennio Morricone aura participé à l'âge d'or du cinéma italien, mais la France est elle aussi bien représentée avec Lautner, De Ré et bien entendu Henri Verneuil et son clan des Siciliens. Le coffret Sergio Leone s'achève avec les musiques pour Tarantino et quelques raretés et relectures de grands classiques du maestro, une œuvre à la fois foisonnante et presque intimidante.
Ah, Voilà, c'est un cadeau idéal.
Intimidant, je sais pas, mais en tout cas, on a tout ça en tête.
Pour les fans de Western Spaghetti, c'est parfait.
Exactement, merci beaucoup. Hélène Fillion, on se retrouve évidemment demain, le 18-20, la suite, c'est le téléphone sonne. Ok boomer contre ok fiston, on interroge la fracture de génération que cette réforme des retraites a peut-être réveillée, mais qui au fond existait depuis un moment. Y a-t-il une génération baby boomer privilégiée qui a profité et gaspillé contre des millennials qui payent les pots cassés, ou y a-t-il une vraie solidarité entre les générations? Appelez-nous, le standard est à vous, 01 45 24 7000, en attendant l'œil sur le ciel.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des poulets fermiers élevés en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Pierre Hameau, le boomer qu'on garde quand même. Demain, de moins en moins de pluie, Jean-Pierre.
Oui, Fabienne, les précipitations seront effectivement très faibles, de l'Aquitaine au Massif central et jusque vers les Alpes du Nord. Prévoyez encore des averses entre le Nord-Pas-de-Calais et la région Grand Est avec un vent de sud-ouest soutenu. Et partout ailleurs, les éclaircies vont dominer. Le soleil va briller généreusement de la Côte d'Azur à la Corse. Et puis attention, on le répète, au fort risque d'avalanche entre la Haute-Savoie et la Savoie. Les chutes de neige fraîches ne sont pas encore stabilisées. Le vent va rester assez fort sur les crêtes et la limite pluie neige va monter rapidement vers 2000 mètres demain matin, 2200 l'après-midi, et tous ces phénomènes contribuant à rendre le manteau neigeux très instable.
Et sinon, pour Noël?
Une journée très calme, sous les nuages, sur une grande moitié nord et le long de la Garonne. Prévoyez un bon ensoleillement dans les autres régions.